Voilà, je vous invite à entendre deux textes. Le premier dans les psaumes, le psaume 67, c'est un tout petit psaume que je vous lis en entier. Il fait 8 versets. Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse. Qu'il fasse briller sa face parmi nous pour que sur la terre on connaisse ton chemin et parmi tous les païens ton salut. Que les peuples te rendent grâce, Dieu, que les peuples te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes les peuples avec droiture, et sur terre tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, Dieu. Que les peuples te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière le craigne. Voilà, donc c'est le psaume 67. Et puis, ce passage de l'épître aux Galates, que vous connaissez, au chapitre 4, les versets 1 à 4. Telle est donc ma pensée, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais quand tu es venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà, je vous invite à prendre le cantique 244 en entier. Oui, Père, que la paix descende vraiment au cœur même de tous les enfants du monde. Cette paix après laquelle nous courons sans cesse et sans cesse, année après année, siècle après siècle. Oui, que ta présence soit pour le monde un sujet de joie, de liberté et vraiment une excellente nouvelle. Amen. Voilà, le thème de partir et d'être béni me semble important. Il semble important d'abord parce qu'on râle beaucoup. Et on perçoit mal les bénédictions. Vous savez, je ne sais pas si c'est un folklore de dire que les Français sont des râleurs, mais on est quand même ainsi fait que lorsque quelque chose ne va pas, on le remarque assez vite, et bien souvent on s'en prend à Dieu directement en disant « Mais qu'est-ce que fait le bon Dieu? Si Dieu était là, ça ne se passerait pas comme ça. » Et c'est vrai que si on a des idées, certaines idées de Dieu, on pourrait dire des choses pareilles. Si on pense que Dieu est une sorte de super magicien qui peut tout gérer, tout faire et faire advenir ce qu'il voudrait selon sa pensée, évidemment, quand quelque chose va mal, on pourrait se tourner vers lui. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai du mal à entrer dans ce type de dogmatique, et sans doute vous aussi, je veux dire. Mais dans tous les cas, on râle souvent et on s'en prend souvent à Dieu et on a l'impression que on n'est pas toujours dans une bénédiction, mais souvent dans une malédiction. En général, ce qui l'emporte, outre ces phénomènes contre lesquels on s'insurge dans nos vies et dans la vie des autres, c'est surtout l'indifférence, finalement, qui prime dans nos pays occidentaux. Mais ce qui m'étonne souvent, c'est qu'on a du mal à reconnaître le bien. Le bien nous semble tellement normal, finalement, qu'on n'y prend plus garde. La preuve, c'est que dans les bibliothèques de théologie, sur la question du mal, et en philosophie, vous avez ce qu'il faut. Soit Scheller, Hegel, jusqu'à Paul Ricoeur, hein, vous avez des philosophes qui se sont penchés sur le problème du mal. Quant à la théologie, en ce qui concerne le péché, il y en a quelques volumes. C'est-à-dire qu'ils font la joie des étudiants en théologie et des dogmaticiens. En revanche, en ce qui concerne le problème du bien, là, il y en a beaucoup moins. Moi, j'en connais qu'un, c'est celui de Wilfred Monod. Il doit faire dans les 900 pages ou 1000 pages. Enfin, c'est une grosse étude. Voilà. Mais je ne connais pas d'autres livres de philosophes ou théologie qui disent le problème du bien. Parce que si le mal est un problème, le bien est aussi un problème. Je veux dire, pourquoi tel malheur me tombe sur la tête ou sur la tête des gens qu'on aime, et pourquoi le bien leur tombe dessus aussi? Après tout, il y a la même question. Mais c'est vrai que le mal laisse souvent des traces qui sont bien difficiles à effacer. Et on le comprend, évidemment. Il y a un problème de reconnaissance. Il y a un problème de reconnaissance, et je crois que c'est important de poser cette question. Après l'exil à Babylone et dans l'Empire perse, la question se pose aux Hébreux. La question se pose, est-ce que nous sommes bénis ou est-ce que nous sommes maudits, finalement? Parce que les années qui précèdent le retour à Jérusalem, et celles qui vont suivre aussi d'ailleurs, sont des années extrêmement difficiles. On ne peut pas dire que ce petit peuple du Moyen-Orient ait une histoire paisible. Pour elle, l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à des périodes récentes du XXe siècle, hélas, trop connu. Problème de reconnaissance après l'exil. Et ce psaume 27 est intéressant parce que les psaumes ont été écrits pratiquement tous après l'exil. Ce psaume 27 est intéressant parce que c'est un psaume de reconnaissance, je trouve. Visiblement, l'homme qui a écrit ce psaume se sent vraiment sous la bénédiction de Dieu. Il le dit de manière assez enthousiaste, c'est le cas de lire en sens propre et étymologique. Et il le dit dans une sorte de progression, moi, que je trouve assez sensationnelle, assez agréable à lire. Et, il part d'une bénédiction sur Israël d'abord, puis après il passe au peuple et aux nations, c'est pas si bien marqué, puis il finit par la création. Une sorte de crescendo à travers ces quelques lignes de ce psaume 27 et qui conduit d'une bénédiction au peuple et qui s'ouvre à une bénédiction universelle finalement à toute la création. Et ça, c'est déjà un message assez extraordinaire, parce que dans ces quelques lignes, dans ces 6 ou 7 versets de ce psaume, il y a pratiquement toute la bonne nouvelle qui est contenue, finalement, là-dedans, à travers cette bénédiction et reconnaissance de bénédiction. Alors, c'est vrai que les bénédictions, dire du bien, c'est ce que ça veut dire, et les paroles dites sont des paroles efficaces d'une certaine manière. dire, quand on bénit quelqu'un, c'est pas une bénédiction comme ça, histoire de se débarrasser, que, hein, comme ça arrive trop souvent malheureusement, mais ce sont vraiment des paroles fortes, une vraie bénédiction. La bénédiction, est-ce que on doit la vivre ou pas? C'est vrai que l'actualité générale n'est pas terrible. Moins qu'on puisse dire, vous savez qu'il y a eu encore un attentat hier soir, il y en a eu un il y a 2 ou 3 jours en Irak, et ainsi de suite. Vous savez que, hein, au cœur de l'Afrique, dans le berceau de l'humanité, les peuples sont en train de se réarmer, hein, pour reproduire un peu le schéma de la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Le Sahel est toujours en guerre, et ainsi de suite. Enfin bon, je ne parle pas des injustices dans les bidonvilles, hein, de pays du tiers-monde, des bidonvilles qui, il faut quand même en avoir conscience, atteignent 50 ou 60 000 personnes. Vous voyez, ce sont des choses dont on n'a pas tellement conscience chez nous, parce qu'on est tellement dans le confort et dans la richesse, qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe ailleurs. On n'arrive pas à réaliser. Mais imaginez qu'une ville comme Agen, par exemple, soit un bidonville. Et pour un exemple parmi d'autres, hein, je veux dire. Hein. Et c'est quand même la réalité dans énormément de pays du monde. Est-ce que la bénédiction est là ou pas, hein? Et c'est bien la question qui se pose. Hein? Le bien nous semble normal, inaperçu. Le mal est là, il s'étale de manière vulgaire, envahissante, aussi pesante. C'est le cas de le dire. Et pourtant, le bien, il y en a du bien. Ce matin, tous les dimanches matin, j'écoute la radio. Tous les matins, j'écoute la radio à 6 heures du matin. Pour rien vous cacher, la force est de savoir quelle est ma vie privée, mais enfin bon. Et je l'écoute avec assez d'attention. Je veux dire, ça m'intéresse, évidemment. Hein, la parole que je vous annonce, j'essaie de l'incarner dans nos vies, évidemment. Et il y a eu une fête de Nouvel An pour les gens de la rue. Oui, quand même vachement sympa. L'association qui a fait ça, chapeau, c'était quand même vraiment bien. Je ne sais pas si vous avez dansé avec un SDF déjà. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Ah, c'est une épreuve. Hein. Il faut le faire. Prendre dans ses bras quelqu'un de la rue, particulièrement marqué, bon, voilà. Alors c'est sympa parce que les personnes sont émerveillées. Mais voilà, ils ont dansé avec les membres de l'association qui a organisé la chose. Vous voyez, ils ont fait la fête. Ouais. Et le journaliste qui passait par là a posé la question à une dame qui est à la rue, qui a dit « Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2017 ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ben, même le Nouveau Testament, là, est dépassé. Parce que lorsque Jésus pose la question à Bartimée ou au paralysé, le Bartimée dit que je retrouve la vue. Et le paralysé dit que je puisse marcher. Mais la dame SDF, elle a dit qu'il y ait la paix sur le monde. Elle n'a pas dit que je trouve un logement ou de la dignité humaine. Elle a dit les autres. Hein? Et ça, j'ai trouvé, ça c'est un truc, je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a quand même dans le monde des rayons de soleil qui sont extraordinaires. Vous voyez, quelqu'un qui est à la rue, avec ce que ça signifie, qui puisse, à la question posée, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année, pense aux autres, d'abord et avant tout. C'est quand même, si ce n'est pas la bonne nouvelle, je me demande ce que c'est. Même Jésus n'a pas vécu ça avec les gens qu'il a rencontrés, il faut quand même le faire. Dire comme quoi c'est intéressant de prolonger la réflexion. Voilà. Mais tout n'est pas perdu dans ce monde. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une bombe, il y a un type qui a mitraillé une boîte de nuit à Istanbul cette nuit. C'est vrai qu'il y a 2 jours, c'était un marché en Irak, hein, bon, qui a subi l'assaut des terroristes. Je veux dire, et ainsi de suite. Mais il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Ça fait pas de bruit, ce vœu de cette dame. Et c'est pourtant tellement essentiel. Ça dit quelque chose du fond de l'humain. Quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est une vraie bénédiction. Ça, c'est un vrai vœu, hein, tel qu'il faudrait qu'on puisse le vivre. Ouais, nos conduites personnelles, elles sont aussi ce qu'elles sont. Hein, dans le monde, il y a l'actualité, il y a les gens, il y a tout ça, puis il y a nous. Nous, moi, je trouve qu'on est pas si mal que ça. D'abord, vous êtes venu ce matin. vous avez bravé un froid, les premiers grands froids, ou peut-être que vous avez fait la fête hier soir un petit peu, je ne sais pas, puis vous arrivez comme ça le matin, bon, pour entendre une parole, pour partager, raconter deux ou trois blagues autour du café, je ne sais pas, moi, des choses assez sympathiques, je veux dire, voilà, on n'est pas si mal que ça quand même. Je sais que vous participez à la vie d'église, que vous aidez beaucoup de gens à votre niveau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un sourire, une pièce donnée à l'un ou l'autre, ou participation à des associations, que sais-je encore. Mais c'est vrai qu'aussi dans nos vies, il y a des trucs qui ne vont pas. c'est vrai qu'on n'est pas toujours très clair, hein, c'est pas qu'on puisse dire. On a des pans de vie qui on rumine des trucs. Bref, voilà, et c'est souvent pesant. Hein, je veux dire, vous le savez aussi bien que moi. Et pourtant, la bénédiction, elle est là. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelle que soit l'actualité, hein, que ce soit l'actualité classique que la presse nous donne, comme cela, dans l'émotionnel et le tragique, hein, donc d'une qualité assez douteuse, mais ou que ce soit comme ça une parole d'une personne qui vienne au milieu de l'actualité illuminer cette actualité, je veux dire, que ce soit nos vies, et qu'elles soient bien dans certains domaines, un peu moins bien dans d'autres domaines, vous savez, comme dans la parabole du semeur, où on a un peu de bonne terre d'un côté, puis d'un autre côté, on a quelques cailloux, hein, enfin bon, c'est comme ça, hein, je veux dire, mais... Voilà, la bénédiction, ben elle est là, elle est pour tous, c'est pour tout. Hein, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre conduite finalement, et c'est ça qui est important. Mais ce qui est important, je dirais, si la bénédiction elle est là, si elle nous est donnée à tous, avec nos vies, nos qualités, nos défauts, ce qui est important c'est de pouvoir le reconnaître. Je crois que, et c'est là où ça se passe finalement, c'est de le reconnaître. Parce que si je me dis, si j'ai cette bénédiction, malgré ma vie, malgré l'actualité, malgré l'histoire, malgré les injustices dans le monde, parce qu'il y a un hôpital qui s'est ouvert dans tel pays, parce qu'il y a une SDF qui pense aux autres, parce que ceci ou cela, s'il y a cette bénédiction, c'est pour que cette bénédiction soit entendue, afin qu'on puisse la recevoir dans la reconnaissance. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas un accablement de fautes qu'on va chercher. Vous savez, moi j'ai des copains, quand j'étais petit, je les ai accompagnés à la confession. Vous savez, je trouve ça rigolo, parce qu'il y avait le curé dans sa boîte, là, tout, moi protestant, descendant de Huguenot, c'était un peu exotique, hein, tout ça, hein, je veux dire. Et donc j'allais les accompagner. Alors, les malheureux, ils cherchaient toujours quelle bêtise ils avaient pu faire. Ils avaient mangé un carambar en trop, vous savez, des trucs comme ça. Ils cherchaient. Ça n'a pas de sens, je veux dire, de chercher à s'accuser complètement. Non, la repentance, c'est d'abord une reconnaissance. Mais voilà, oui, c'est vrai, c'est pas terrible, mais pourtant, il y a une bénédiction qui est dite. Voilà, il y a d'abord la bénédiction. Avant la grâce, avant la repentance, il y a d'abord une parole positive qui nous est donnée. Une parole positive qui va nous permettre précisément, hein, dans la tranquillité, dans la paix, en dehors de toute forme de culpabilité, de dire à Dieu, bah oui, voilà, là j'ai besoin d'être aidé, et ainsi de suite. Voilà, là j'y arrive pas, ou n'importe, enfin voilà. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est un vieux débat, vous savez, il ne faut pas croire que ce dont je parle là est une trouvaille. Hein, les calvinistes, avec la double prédestination de Calvin, vous savez, qui a été un grand moment de libération au XVIe siècle. Vous savez qu'au XVIe siècle, on pensait que tout le monde était maudit. On a perdu de vue, ça. Hein, hein. Imaginez qu'au XVIe siècle, on pensait que personne n'était entré au paradis. Personne n'entrait au paradis. Il y avait tellement de violence, d'injustice au XVIe siècle, les guerres civiles, un peu partout dans l'Europe, avec la Réforme, la Renaissance et tout ça. Hein, avec l'arrivée massive de la mort depuis un siècle et demi, avec la peste, les armes à feu, des choses comme ça, on pensait que personne n'entrait au paradis. Oui. Et lorsque Calvin arrive, il dit, mais non, il y en a quelques-uns qui sont prédestinés à entrer au paradis et à être sauvés. Ouf, il dit, ah, quand même, tout n'est pas perdu. Et donc au XVIe siècle, la double prédestination a été un élan de bonne nouvelle, finalement. On l'a vu de manière extrêmement positive. C'était très, très libérateur. Alors qu'aujourd'hui, on dit, oh, mais Calvin, vous rendez compte, il y en a qui sont prédestinés à l'enfer, puis d'autres au salut, comment Dieu fait son choix, etc. Vous voyez, aujourd'hui, ça passe plus du tout. Mais dès la deuxième génération de calvinistes, il y a eu des contestataires. Hein. Moïse Amiraux, par exemple, évidemment, à Saumur, à l'école de Saumur, à poser cette question, a été le premier à poser cette question, et puis ça va continuer au début du XVIIe siècle aussi. Bon, il va y avoir des grands débats, la politique va s'en mêler, etc., dans les pays protestants. Je ne vous refais pas l'histoire, mais ce n'est pas le but. Mais on a reposé la question de cette prédestination. Et finalement, petit à petit, s'est fait l'idée que la prédestination, elle est là, mais elle est universelle. Voilà. C'est-à-dire que tous sont prédestinés au salut. Et théologiquement parlant, en dehors de toute circonstance historique, je comprends bien Calvin, évidemment, mais en dehors des circonstances historiques, je crois que théologiquement parlant, la vérité, elle est là. L'amour de Dieu ne se découpe pas comme cela, n'est pas sélectif. Un amour n'est pas sélectif. Je veux dire, le pardon sur la croix n'est pas sélectif. Je veux dire, ce sont des valeurs qui sont posées dans l'absolu et dans l'éternité. C'est-à-dire qu'elles étaient valables hier, elles sont toujours valables aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas une époque, hein, je veux dire, mais il y a une permanence, hein, qui est là. Et donc, je crois que la prédestination, elle est là, elle est universelle. Elle sera toujours universelle pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Imaginez les pires des hommes que vous puissiez imaginer, comme cet homme qui est rentré dans cette boîte de nuit et qui a mitraillé tout le monde, cette nuit par exemple. Eh bien, il est prédestiné au salut, comme nous. Ça semble énorme, mais c'est l'amour de Dieu dont il s'agit. C'est la justice de Dieu dont il s'agit. Ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas l'amour des hommes. Et c'est ça qui nous dépasse et qui parfois nous scandalise, effectivement, véritablement. Mais si on y réfléchit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que cet homme qui a mitraillé des jeunes là, qui passaient le Nouvel An dans cette boîte de nuit, va réaliser qu'il est sous la bénédiction de Dieu, d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, véritablement? Grande question, ça. C'est un autre problème auquel je n'ai pas de réponse. Mais cette prédestination universelle, elle me semble quelque chose d'extrêmement positif pour que nous puissions vivre véritablement le message de la Bible, véritablement ce message de bénédiction de la Bible qui court. Hein, Dieu voit que cela est très bon dans la création. J'aurais pu prendre ce texte aussi, parce que très bon, c'est toujours c'est agréable, c'est lors de la bénédiction. Hein, Abraham part avec la bénédiction de Dieu, et ainsi de suite. Le peuple est en mouvement avec la bénédiction de Dieu. Jésus est reçu à Jérusalem. Il y a des bénédictions qui sont produites aussi, qui sont dites à ce moment-là. Et c'est avec ce Jésus qui est là, qui entre à Jérusalem, que cette bénédiction va être amplifiée, va nous atteindre au cœur même de notre vie. Dans le texte des Galates, pardon, il est dit cette phrase, moi, qui me frappe. Il est né du Saint-Esprit, il est né d'esprit, il est né d'une femme. Il est né d'une femme. Là aussi, c'est intéressant. Il n'est pas né de Marie ou de Joseph. Il n'y a pas de berger, il n'y a pas de mage, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas le chant des anges. Il est simplement né d'une femme qui n'est même pas nommée. Vous voyez ? Ce qui frappe sans doute Paul et les premiers disciples, c'est cette humanité du Christ, cette profonde humanité du Christ. Jésus est né d'une femme. Il n'y a pas d'évangile de l'enfance. C'est à la fin du premier siècle qu'on va rajouter les évangiles de l'enfance, sans doute à cause des influences du milieu dans lequel le christianisme s'est développé. Mais ces évangiles de l'enfance sont véritablement de l'ordre de la mythologie, complètement, je veux dire. Il faut voir les choses comme elles sont. Je veux dire, ils ont un discours théologique qui est intéressant, sur lequel on peut prêcher, on ne peut pas dire le contraire. Le Magnificat, on peut dire des tas de choses sur la justice, etc., à partir du Magnificat de Marie. Mais Marie n'a jamais chanté le Magnificat. Je veux dire, c'est quand même une ineptie que de soutenir une chose pareille aujourd'hui. En revanche, il est né d'une femme. Et c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui. Parce que la bénédiction en Jésus-Christ, elle va passer à travers la profondeur même de l'humain. Non, véritablement, Jésus, ce n'est pas un héros. Il naît, on ne sait pas très bien où ni de qui, je veux dire. Et je réfléchissais à ce que m'avait dit quelqu'un qui m'avait balancé en pleine figure, comme cela, oh, Jésus, il est né d'une prostituée et d'un soldat, et d'un légionnaire romain. Je dis, puis alors j'étais scandalisé. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Finalement, c'était quelque chose qui me plairait bien. Parce qu'on ne peut pas descendre plus bas. Une prostituée et puis un soldat de passage, vous voyez un peu le truc, hein ? Imaginez la scène. Prenez une maison de passe, un des plus sordides de la Palestine, avec ses légionnaires qui sont des drôles de types, d'une brutalité incroyable. La Légion était d'une brutalité, on ne le dit pas trop dans l'histoire, mais enfin, c'était vraiment des soudards, les types. Hein. Et ils ont pratiqué le génocide, enfin bref. Et bien que Jésus soit né là, je me suis dit finalement, c'est pas si bête comme idée. La personne qui avait voulu me choquer, en fait, m'a fait réfléchir. Je me suis dit oui, si là, seulement c'était la réalité, au plus bas de l'humanité, au plus bas de l'humanité. Voilà. Jésus est né là-dedans. Il n'est pas un héros. Il n'est pas Dieu non plus. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Voilà. Ce qui me plaît dans Jésus, c'est que je peux me retrouver dans sa figure d'humanité. Ce n'est pas un ange non plus. D'abord, ça se saurait. Puis si c'était véritablement un ange, je n'aurais pas cassé la figure au vendeur du temple. Hein? Par exemple, je ne sais pas s'il est parfait, Jésus. Il ne correspond pas à la morale humaine. Vous imaginez, en 1942 ou 43, quelqu'un de connu qui serait allé manger, je ne sais pas, moi, c'est les gens qui bâtissaient le mur de l'Atlantique et qui s'enrichissaient là-dessus, vous savez, avec les Allemands, au vu au sud de tout le monde, en disant, ben, salut, il est rentré chez cette personne. Vous savez, ce collabo dégueulasse là, qui s'enrichit là, hein, sur le dos des résistants, des Français, etc. Le salut, rentré chez lui. Moralement, c'est pas évident, hein, je veux dire. Pourtant, Jésus l'a fait. Ça lui a coûté cher, vous me direz. Oui, je crois qu'il est aussi anti-loi. La loi, elle est utile, évidemment. Mais, là, je suis en train de lire un livre de Boris Cyrulnik, hein, si la loi devient un carcan, et il le perçoit très bien, elle devient quelque chose de très négatif, parce qu'elle paralyse, elle empêche la liberté de s'exprimer complètement. La loi, elle est intéressante, parce qu'il faut la suivre d'un côté, mais il faut la transgresser de l'autre. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de policiers dans la salle, mais enfin, je vous connais tous, je sais qu'il n'y en a pas. Je veux dire, mais c'est un peu ça, je veux dire. Il faut pouvoir transgresser la loi. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Je veux dire, en même temps, il faut la suivre. C'est un équilibre qui est difficile, évidemment, à tenir. Mais Jésus est au-delà de la loi, évidemment, et ainsi de suite. Et puis, Jésus n'est pas pour la perfection. Il ne demande pas aux gens d'être parfaits. Jamais il a dit aux lépreux, aux prostituées, hein, aux collecteurs d'impôts d'être des gens bien. Non. Il n'y a rien de tout ça. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est de dire aux gens, vous êtes là, ben, soyez ce que vous êtes dans la liberté. Et c'est ça la bénédiction. Accomplissez vous-même et lancez-vous dans la vie. Si Abraham est parti, si le peuple a quitté l'Égypte, si le peuple est revenu à Jérusalem, si Jésus s'est lancé dans son aventure et si les apôtres ont suivi et ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont eu quelque chose qui les a portés à être eux-mêmes véritablement et à se lancer dans l'aventure, à oser aller dans l'aventure, à partir, parce qu'il y a une bénédiction. Et en Jésus-Christ, cette bénédiction, elle est telle en Jésus-Christ qu'elle va toucher le fin fond de l'humanité. Les gens qui sont véritablement au bout du rouleau, au bout de la route, là, vont être touchés parce que Jésus est véritablement comme eux, qu'il est de notre nature et qu'il est porteur de cette bénédiction. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on saisit, à travers le parcours biblique, que la bénédiction qui s'accomplit en Jésus-Christ, qui vient couronner toutes les bénédictions, finalement, est la bénédiction d'un Dieu, qui est un Dieu fondamentalement un Dieu d'amour. Voilà, que Dieu vous bénisse les uns et les autres et qu'il vous garde pour toute cette année et bien d'autres encore, évidemment. Amen.